La bataille d'Elia fait rage, ça n'est fait plus aucun doute, et c'est visible sur tous les fronts. Économique, politique, information, écologie, il n'y a pas un sujet dans lequel cette innovation technologique n'ait fait pas débat. Et c'est normal au regard du bouleversement qu'elle provoque.
Quel avis avoir sur ces changements? Dans AZERTY, on a reçu des personnes sceptiques, critiques, mais également des acteurs de cette transformation visible sous nos yeux. Si l'on tourne autour du sujet depuis un moment, aujourd'hui, essayons de poser la question de l'IA face à la science, de la morale, l'éthique. Est-il possible aujourd'hui de concevoir une IA éthique en connaissant les impacts de cette dernière? D'avoir l'usage de cette technologie en accord avec nos valeurs? Et si c'est le cas, comment s'approprier cette innovation de cette façon?
Notre découverte de l'ICA à Marseille est donc tombée à pic. Il s'agit d'un laboratoire de recherche action qui met ensemble l'intelligence artificielle et collective. Et tout ça pour co-créer des projets qui ont du sens pour répondre aux enjeux sociétaux. Avouons-le, nous avons été assez surpris de voir ces deux termes réunis. Quel est le rapport entre l'un fait des silicium et des circuits électroniques et l'autre fait des cercles de paroles, des réunions et d'animateurs et d'animatrices en chair et os? Nous avons alors rencontré Raphaël Torres, chef des projets IA éthique et numérique durable au LICA, pour jeter les bases autour de l'IA éthique et de l'intelligence collective.
Ok, je lance AZERTY.
Alors, le LICA ne se résume pas qu'à une structure d'accompagnement et de formation autour de l'IA. Bien que ce soit déjà pas mal, Setscope a voulu mettre en place une manière concrète d'observer le résultat de leurs travaux, avec un tier lab des transitions. Un lieu ouvert proposant à chacun de rencontrer des acteurs de la transition, des résidents, d'assister à des programmations scientifiques et culturelles, etc. Dit comme ça, je commence à être séduit par l'idée. Mais n'oublions pas qu'au cœur du sujet, on a de l'IA. Et donc, si évidemment on discute avec Raphaël rempli de curiosité, je peux pas m'empêcher d'avoir une certaine méfiance, pour être honnête. Mais allons-y, le LICA prône l'IA éthique, mais qu'entendons-nous par là?
Donc l'intelligence artificielle éthique, c'est l'idée de doter les systèmes d'intelligence artificielle de principes moraux, et donc du coup de pouvoir s'assurer que les IA qu'on utilise, qu'on développe, qu'on conçoit, soient cadrées. Et donc du coup, ce qu'on va faire, nous, par exemple, dans des accompagnements, de façon assez concrète, c'est de travailler avec une structure sur quelles sont les valeurs que cette structure veut défendre, veut valoriser, et donc s'assurer que l'IA va être en adéquation, va être alignée avec ces valeurs-là. Donc, par exemple, si on est une structure dont l'enjeu de sécurité est important, l'enjeu de transparence est important, comment on s'assure qu'une solution d'IA derrière va être transparente, va ne pas poser de problèmes de sécurité, etc., etc. Et donc réfléchir à l'IA éthique, c'est réfléchir à ce que ces enjeux-là soient vraiment respectés par le comportement de cette solution. Et aujourd'hui, les solutions d'IA, elles sont capables de faire beaucoup de choses. Et donc du coup, c'est important de mettre un cadre sur ce qu'elles peuvent et ne peuvent pas faire. Et donc traiter de ce sujet-là, c'est traiter des enjeux éthiques de l'intelligence artificielle.
Ok, la première pièce d'une IA éthique est donc de s'assurer que l'IA respecte notre éthique, que qui nous soyons. Et en effet, c'est pas une évidence si nous pensons que nombreux produits d'IA nous parviennent déjà faits, prêts à l'emploi, et donc avec l'éthique de quelqu'un d'autre. Mais avant d'entrer dans cette définition, il y a cette histoire d'intelligence collective, ou IC. Quel est le rapport entre le collectif et l'IA? Pour être honnête, je ne suis pas un grand expert en la matière, et en fait, nous sommes allés demander à Raphaël une définition des lycées.
L'intelligence collective, c'est toutes les méthodes qu'on va pouvoir utiliser pour réussir collectivement à travailler ensemble, à réfléchir de façon collective. Et ça part du postulat que quand on réfléchit ensemble, selon une certaine méthodologie, on arrive à une forme d'intelligence collective qui est plus importante que la somme des intelligences individuelles. Et donc du coup, si on arrive à avoir de la pluralité d'opinion, si on arrive à ce que chacun puisse l'exprimer, etc., etc., donc tout un tas de contraintes, on va arriver à produire une réflexion collective qui est particulièrement pertinente. Et donc nous, on forme et on travaille à pouvoir faciliter cette forme de coopération. Nous, on utilise donc l'IA et l'IC en parallèle, enfin, on mixe les deux. Ce qu'on fait, c'est que, par exemple, dans le cadre de l'intelligence artificielle, pour faire une intelligence artificielle éthique, pour faire une intelligence artificielle qui soit plus juste, on va aller amener de la pluralité de regards lors des phases de conception, pendant le développement, pendant l'utilisation, parce que plus on amène par exemple de la diversité, plus on va s'assurer que le résultat va être robuste, on va réduire les biais. Un des gros enjeux dans l'IA, c'est que l'IA aujourd'hui elle a plein de biais, parce que les façons qu'on a de les concevoir, de les penser, ça peut souvent provenir d'équipes, d'ingénieurs, d'hommes, d'un certain milieu, etc., etc., qui ont une vision du monde particulière. Et donc du coup, plus on va aller amener du pluralisme, plus cette vision du monde elle va du coup s'étoffer, et plus on va réduire les risques de discrimination, etc., etc. Et donc du coup, grâce à l'intelligence collective, on va pouvoir faire des intelligences artificielles qui vont être moins biaisées, plus justes.
Ah, ça c'est cool. Selon Raphaël, une partie du problème IA et éthique n'est pas dans ses usages, comme on l'en pense souvent, mais dans sa conception, dans la façon dont elle est produite, parce qu'il y a des biais, des points aveugles, etc. Or, les premières fois où j'ai assisté à des moments, par contre, d'intelligence collective, j'avoue, j'ai pas tout de suite capté. On fait des brise-glace, des brainstorming, on prend des décisions avec des méthodes qui ne sont pas les votes ou la hiérarchie. C'est avec les temps que j'ai compris l'importance de bien cadrer ces moments, ces réunions. Mais si on parle de méthode de production, je pense tout de suite au fait que dans une entreprise, il y a des rapports de force entre salariés et cadres et patrons, etc. Du coup, ça n'aurait pas plus de sens de se tourner plus vers le syndicalisme que vers l'intelligence collective. Ou il y a un lien entre les deux au final ?
On n'est pas dans un monde de bisounours où il n'y a aucun rapport de domination, où tout va bien, etc. En fait, la réalité d'une entreprise, la réalité de n'importe quel collectif, c'est qu'il y a des tensions, c'est qu'il y a des sujets de frottement, de crispation, etc. Et donc, du coup, la méthode d'intelligence collective sert justement à s'assurer que on puisse, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'on puisse avoir de la parole indépendante, libre. Et donc ça, très concrètement, on a des outils pour ça, pour s'assurer effectivement qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir expliquer la vie sur un sujet et monopoliser la parole, etc. Donc du coup, il y a des facilitateurs, des facilitatrices en intelligence collective qui vont aller animer ces temps de discussion pour s'assurer qu'on répartisse bien la parole, que chacun puisse s'exprimer, avec des déroulés d'ateliers, de réunions, pour s'assurer que la parole soit placée au bon endroit, au bon moment, etc. Et après, il y a effectivement dans une structure des enjeux de gouvernance, et donc du coup, à plus grande échelle que celle d'une réunion, il y a des façons de s'organiser pour aller justement parler avec le CA, parler avec les bénévoles, parler avec les salariés, faire des ateliers où ça se mixe, où voilà. Et en fait, on n'est pas tout le temps tous ensemble autour de la table pour discuter, parce qu'il y a ces problématiques-là. Et donc, il faut l'art de l'intelligence collective, c'est justement de trouver les bons déroulés, la bonne suite de déroulés pour que la parole soit au bon moment, au bon endroit, etc.
Voilà alors le postulat de base du LICA. Faire de l'IA de manière éthique, c'est intégrer le collectif à penser la conception et l'utilisation de cette technologie. Très bien, c'est très clair. Pour faire ça bien, on y intègre l'intelligence collective, qui, de ce que je comprends, consiste à une mise en place de techniques de communication et d'échange pour produire quelque chose d'a priori plus pertinent que ce qu'on aurait pu produire de manière individuelle. D'accord ? Mais moi, c'est sur le mot éthique que je tique. Et justement, c'est là qu'on va commencer à embêter notre invité. En fait, l'éthique, c'est un mot particulier, on en fait un peu ce qu'on veut. Et si on la définit comme la science de la morale, autant dire qu'on n'a pas tous la même morale. Pour le coup, l'IA, c'est une innovation qui pose quand même pas mal de questionnements moraux. D'un point de vue écologique, ça consomme énormément d'eau et d'énergie. Côté travail, on peut penser aux conditions de travail des personnes qui labellisent les données, souvent exploitées. On peut aussi parler des changements observables sur le monde du travail avec l'automatisation de certaines professions, en témoignent les actions menées par les comédiens de doublage. Et comment ne pas parler des impacts sociaux de la désinformation simplifiée par les technologies de génération. Bref, la liste est longue. Et vu comme ça, le tableau est assez noir. Quand Raphaël nous explique que l'accompagnement fait par le LICA est censé entrer en résonance avec leurs clients, qui peuvent être des assos, des entreprises, des structures qui veulent bien faire, nous on se demande comment ils définissent les limites d'un usage éthique. Est-ce que c'est un travail conjoint entre le client et le LICA, ou est-ce qu'ils arrivent avec leur boussole morale ?
L'éthique, c'est un sujet qui est dynamique, pluriel et collectif. Collectif parce qu'il se définit autour de personnes qui vont se poser sur ce problème-là. Et donc, du coup, ça peut être au sein d'un collectif, au sein d'une organisation, sur un territoire, dans un pays, sur un continent, etc. Et donc, l'éthique de l'IA, c'est pas la même pour une organisation privée qu'une collectivité, c'est pas la même pour un pays par rapport à un autre, à un continent, etc. C'est dynamique parce que les enjeux qu'on traverse, ils changent avec le monde qui évolue. Et c'est pluriel parce que, du coup, à chaque fois, le résultat, du coup, de ce cadrage éthique-là, il va être différent. Et donc, nous, par rapport à ça, notre position, c'est pas de venir avec « c'est ça l'éthique, c'est ça que vous devriez faire ». Et on travaille avec chaque organisation sur ses enjeux et qu'est-ce qu'elle traverse, et donc du coup s'assurer qu'elle ait les bons outils pour adresser ces enjeux. Et par exemple, du coup, effectivement, l'enjeu écologique de l'IA, c'est un enjeu qui s'adresse à l'échelle, par exemple, donc ça peut être à l'échelle d'un continent avec de la réglementation, etc. etc. Donc forcément, effectivement, selon à qui on va s'adresser, on va pas avoir les mêmes discussions, les mêmes débats. Mais nous, on n'arrive pas avec des solutions préconçues là-dessus, quoi.
Ok, je comprends le point de vue de graduer l'éthique en fonction de sa structure, de sa taille et de ses particularités, disons. J'imagine que le travail d'intelligence collective est aussi là pour apprendre aux organisations à se questionner et à clarifier leurs valeurs. Maintenant, j'aimerais savoir comment tout cela se matérialise concrètement. Et je pense qu'avec un exemple, on y verra plus clair.
On a des projets où on fait du conseil, notamment on a travaillé avec Opéra, qui est une institution européenne qui travaille sur la science ouverte. Aujourd'hui, les chercheurs et chercheuses vont utiliser des logiciels d'IA pour faire des traductions, pour traduire leurs articles, pour les faire éditer en anglais, parce qu'en général, les papiers de recherche, ils sont en anglais. Et pareil, ils vont les lire en les traduisant depuis l'anglais vers leur langue. Donc l'anglais centralise un peu les différentes langues, et on passe par un acteur privé, type Google Trad, DeepL, pour cette recherche, pour lire et écrire des articles de recherche. Et donc du coup, cette institution-là se posait la question de se dire, il y a un problème de souveraineté, parce que nous, on n'a pas forcément envie d'envoyer toute notre propriété intellectuelle dans une plateforme privée, et on n'a pas forcément envie de passer systématiquement par l'anglais pour faire ça. Donc eux, ils ont lancé un projet pour étudier ce que ça représenterait de faire un traducteur automatique, mais souverain en Europe pour la science ouverte, qui inclut les traducteurs, les traductrices, parce qu'en général, les traducteurs et traductrices dans les plateformes classiques, ils ne sont pas vraiment rémunérés. Donc il y avait plein d'enjeux, et donc ils se demandaient voilà, qu'est-ce que ça représenterait en termes de projet, donc de phasage de projet, de budget, etc., de développer une solution d'IA de traduction multilingue qui comprennent plein de langues différentes et qui prennent en considération tous ces acteurs de façon juste. Donc nous, on a été sollicités là-dessus sur la quatrième et dernière phase qui était imaginer un peu les fonctionnalités de cette solution-là et le cadrage légal, le budget, la feuille de route, etc. Et donc nous, on a remis un rapport par rapport à ça.
J'avoue, l'exemple nous a beaucoup aidé à mettre du concret dans cette discussion. Du coup, on appelle les LICA avec un projet en tête, on co-organise des moments d'intelligence collective, on est autour de la table, on essaie avec leur technique de créer nos lignes guides morales. Mais bon, là j'y vois un problème. L'IA est un outil très très technique. Ça doit être difficile de l'expliquer facilement, même avec lycée. Et c'est pas un hasard si, pendant nos discussions, il y a un mot qui ressort beaucoup, l'imaginaire, qui s'est créé autour de ces algorithmes. Et sur ces sujets, Raphaël utilise deux termes en opposition. L'IA éthique, on l'a vu, versus l'IA mystique. Alors là, j'ai eu vraiment besoin d'explications.
Aujourd'hui, il y a un peu une polarisation sur le sujet de l'IA, sur la façon de percevoir l'IA, où il y a des gros acteurs économiques sur ce sujet-là qui veulent pousser un imaginaire de l'IA mystique. Et l'IA mystique, c'est au sens de une IA magique, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, mais ce n'est pas important. Ça marche super bien, ça peut répondre à tout, c'est un oracle, et ça va nous effacer le fait que derrière il y a des externalités, ça a un impact sur les ressources que ça consomme, sur les travailleurs qui sont parfois mal rémunérés, qui travaillent dans des conditions difficiles, etc. Et ça, c'est l'IA mystique, un peu comme le sujet du cloud, hein, quelque part. Et aujourd'hui, donc, du coup, sur l'IA, on a un peu ce sujet-là, on a une IA mystique, un imaginaire de l'IA mystique qui est poussé, en disant « vous vous intéressez pas à ça, ça marche super bien, demandez à ChatGPT, il va répondre à tout ». Et l'IA éthique, c'est un peu justement d'essayer de dévoiler cet imaginaire-là et de dire en fait, l'IA mystique ça n'existe pas, il faut questionner ce qu'il y a derrière et questionner les enjeux éthiques qu'il y a derrière. et poser les bonnes questions. Et aujourd'hui, il y a vraiment il y a une bataille des imaginaires où on a beaucoup, beaucoup d'efforts par les acteurs économiques qui sont menés pour s'assurer que ça soit le plus lisse possible et qu'on se pose assez peu ces enjeux-là.
En écoutant Raphaël sur cette idée d'imaginaire de l'IA mystique, je peux pas m'empêcher de penser à toute l'iconographie autour de l'IA portée par les grands acteurs de la tech. Quasiment à chaque fois, on y retrouve l'idée de magie. Sur la suite Google, par exemple, ce sont des petites étoiles féeriques. Apple et son Apple Intelligence optent pour une palette de couleurs un peu fantastique. À ce propos, d'ailleurs, le collectif de chercheurs en design, Limites Numériques, a fait un super travail sur ce sujet. C'est dispo sur le site et on vous le met en description. Enfin bref, ce que je comprends, c'est qu'on ne veut pas voir ni comprendre la technique. On veut seulement s'émerveiller devant ses résultats. Bon, si le LICA semble prôner une certaine transparence à propos des controverses autour de l'IA, comment s'exprime-t-elle ? J'ai un peu de mal à les imaginer, entre guillemets, vendre de l'IA tout en pointant leurs effets négatifs.
Déjà, je pense que la première étape par rapport à ça, c'est d'être lucide. En fait, il faut qu'on se le pose, cette discussion-là. Il ne faut pas qu'on invisibilise les travailleurs du clic, l'impact écologique de l'IA sur notre environnement, sur les ressources qu'on a. Donc déjà, la première chose, c'est de rendre visible ça. Et donc nous, on a un gros sujet de formation, de sensibilisation, de parler de ces sujets-là et de les rendre visibles. Nous, dans la façon que nos partenaires, les acteurs avec qui on travaille, vont utiliser l'IA, on peut influer sur ces sujets-là. Par rapport à ça, nous, on a un rôle de le rendre visible, pas le mettre sous le tapis, de dire c'est ça l'empreinte que ça a l'IA sur le monde. Et donc du coup, après, de dire est-ce que vous avez besoin d'utiliser l'IA pour cet usage-là ? Et donc de questionner après l'usage. Et donc ça, c'est vraiment une question de design, c'est une de nos activités, dans la conception, de guider dans la conception pour faire ces choix, les choix les plus pertinents possibles. Et donc nous, là-dedans, effectivement, pour parler de l'empreinte écologique, on conseille pour des IA sobres et frugales. Donc sobre, c'est-à-dire, si t'as pas besoin d'IA, n'utilise pas d'IA, aussi simplement que ça. On n'a pas besoin de l'IA pour tout, et des fois il y a un peu un phénomène gadget, etc. Donc questionner vraiment ce rapport à est-ce qu'on a besoin d'un outil aussi énergivore. Et frugal, c'est quand on a besoin d'un outil aussi énergivore, comment on peut réfléchir à optimiser sa consommation. C'est-à-dire, est-ce que j'ai besoin de l'utiliser tous les jours, auprès de tous les publics, tout le temps, ou est-ce que je peux réduire son usage, réfléchir aux matériaux qui sont utilisés, réfléchir à où sont stockées les données, etc. etc. Donc nous, on questionne souvent la proportionnalité et la finalité des solutions d'IA.
La vulgarisation, l'accompagnement, je crois qu'on commence à bien comprendre la manière dont Tolika, ils envisagent un usage éthique. Mais concrètement, ça donne quoi ? Qu'est-ce qu'ils utilisent ? Qu'est-ce qu'ils conseillent ? Où vont-ils chercher les modèles d'IA qu'utilisent leurs partenaires ? On sait que presque tous les mois, si c'est pas toutes les semaines, sortent de nouveaux modèles plus performants que les précédents. Alors, c'est envisageable de faire avec ce qui existe déjà, plutôt que toujours attendre le dernier modèle ?
Développer par soi-même, ça coûte aussi assez cher. Il faut des équipes de R&D, toutes les entreprises n'ont pas la capacité de développer par soi-même. Donc juste pour un enjeu économique déjà, c'est déjà une très bonne solution. Et en plus, effectivement, pour des raisons écologiques, c'est évident que de réutiliser, de ne pas réentraîner des modèles, mais d'utiliser des modèles déjà entraînés, c'est hyper pertinent. Et notamment, il y a Hugging Face qui répertorie un peu tous les modèles existants, donc on peut aller piocher là-dedans, etc. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui un des bénéfices d'Internet et d'avoir autant de choses à disposition et même de la culture un peu de l'open source aussi par rapport à ça. La seule, alors je ne sais pas si c'est une limite, mais en tout cas le point d'interrogation qu'on peut un peu avoir par rapport à ça, c'est que parfois on n'a pas toute la transparence sur comment les modèles ont été entraînés, évalués, etc. Donc ça peut aller de vraiment tout est ouvert jusqu'au code, on peut réentraîner tout, etc., à des choses assez quand même peu documentées. Et donc quand c'est le cas, il peut y avoir un peu des enjeux éthiques parce qu'on ne sait pas exactement sur quel type de données ça a été entraîné. Et donc ça peut avoir, in fine, des biais de discrimination parce que certaines populations, certaines personnes n'ont pas été présentes dans les bases de données à la base, etc. Donc il y a quand même un besoin, dans le matériel qu'on récupère, d'aller l'évaluer, de creuser un peu ce que c'est. Mais à ceci près, sinon, c'est vraiment une super solution technique, quoi.
Mais du coup, là, on est en train de dire qu'en gros, la documentation, quelque part, toute la philosophie open source, fait partie aussi de tout ça. Est-ce que les côtés open source, code ouvert, etc., n'est pas le préalable pour pouvoir développer des technologies éthiques ?
On parle souvent dans l'IA éthique de l'enjeu de transparence, de rendre transparent le code, etc. etc. Et parfois, donc on cite l'open source en disant, à partir du moment où c'est open source, c'est transparent, et les gens y auront accès. Ce qui est déjà un premier élément de réponse, mais on peut même aller plus loin que ça et demander en fait, d'être intelligible, c'est-à-dire de donner du code, mais donner tout les outils et la documentation autour pour comprendre comment ce code a été produit, à quoi il sert, etc., pour qu'on puisse vraiment se l'approprier. Et donc dans l'IA éthique, le fait de faire du logiciel qui soit intelligible, qu'on puisse récupérer, etc., c'est un enjeu clé pour s'assurer effectivement derrière d'avoir quelque chose qui va être digne de confiance et qui soit juste, quoi.
Bon, ok, du coup, je commence à capter que Raphaël nous dit que parce qu'une IA respecte une éthique, il faut une transparence dans la construction de l'éthique et une transparence dans la démarche, du coup, l'open data, l'open source, etc. Mais c'est à ce point de la discussion que je me suis rendu compte d'une chose absurde. On dit toujours que l'IA est un algorithme à boîte noire, c'est-à-dire que pour constitution, l'IA est obscure, dans le sens où personne ne sait pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Mathématiquement, ça marche, ça produit des résultats, même s'il y a tellement de paramètres qu'il est presque impossible ou difficile d'interpréter comment. Bah, du coup, comment rendre éthique un algorithme qui, par essence, est indéchiffrable ?
Effectivement, donc, la transparence, ça se fait à plein d'endroits différents. Elle se fait dans le processus pour développer un algorithme, dans les algorithmes eux-mêmes et la façon qu'ils ont de fonctionner, etc. Et donc, ce dont tu parles, c'est l'enjeu un peu de transparence de l'algorithme lui-même, de comment il fonctionne. Et c'est vrai que dans le deep learning, on a cet enjeu-là, ce problème-là de transparence parce que par conception, par la façon qu'ils ont d'être faits, les algorithmes deep learning, la transparence est difficile parce qu'en fait, c'est peut-être un tout petit peu technique, mais les algorithmes deep learning, c'est ce qu'on appelle des méta-algorithmes, c'est-à-dire qu'ils vont créer un algorithme, ils vont créer une suite d'instructions. Et c'est cette suite d'instructions qui marche super bien et qu'on va utiliser après, sauf que la suite d'instructions qu'ils produisent sont très peu intelligibles. Et donc du coup, un algorithme d'IA, c'est le résultat de ça, c'est toutes ces lignes d'instructions qui ne sont pas très intelligibles. Donc c'est vrai que la solution en elle-même, c'est difficile de la rendre transparente. Maintenant, il y a beaucoup de recherches qui est fait sur ce sujet-là pour travailler là-dessus, etc. Mais de base, la techno fait qu'il y a cette problématique-là.
Alors profitons du fait que notre invité ne soit pas frileux à l'idée de nous répondre sur les controverses autour de l'IA. Il le dit lui-même, une partie de son travail est de conscientiser sur les impacts de cette technologie. Mais sortons un peu de l'hypocrisie collective qui entoure la critique de l'IA. Pourquoi je dis ça ? Alors loin de moi l'idée de me faire grand défenseur de cette technologie, mais j'ai l'impression que l'IA a bon dos, comme nous le disait Mathilde Saliou dans une autre interview. Pas que l'intelligence artificielle ne doive pas être critiquée ni interrogée, mais j'ai le sentiment que s'attarder dessus, c'est ne pas poser la question du reste de nos usages numériques et de leurs impacts environnementaux, de la place du travail dans nos vies, et peut-être même des problèmes structurels qui nous poussent à son utilisation pour toujours plus de gains de productivité et de consommation. Ça fait beaucoup, alors on partage nos réflexions à Raphaël.
Je pense que l'IA, par la techno que c'est, est un peu un catalyseur, parce qu'ils utilisent beaucoup de données, parce que c'est des modèles probabilistes et donc qui renforcent des stéréotypes si on ne fait pas attention, etc. Donc par la techno que c'est, peuvent renforcer certaines tendances. Mais effectivement, il y a un enjeu qui est plus large et qui est celui du numérique de manière générale, qui est qu'on est dans une société où on a de plus en plus de terminaux, parce qu'on nous vend de plus en plus de téléphones portables, d'ordinateurs, de plus en plus de services, d'usage, de gadgets, de capteurs partout. Donc on est en train de produire, de manière générale, de plus en plus de données avec des modèles économiques qui exploitent ces données pour faire des services, etc. Donc de toute façon, la tendance du numérique, de manière générale, elle est à augmenter consommation et donc du coup derrière tout l'impact environnemental que ça implique. Ça c'est d'un côté. Et de l'autre, je pense qu'il y a un enjeu qui dépasse aussi celui-là de l'IA sur l'aspect éthique, qui est que les enjeux qu'on se pose sur l'IA, sur les questions éthiques, sur les questions du travail, sur les questions écologiques, sur les questions sociales et tout ça, c'est des questions en fait qui sont des questions inhérentes aussi à notre société, que l'IA va cristalliser, mais par exemple l'avenir du travail, l'IA vient mettre le doigt sur quelque chose d'assez douloureux et compliqué, mais qui est une question qu'on devrait se poser, quoi qu'il arrive, même s'il n'y avait pas l'IA. Aujourd'hui, le monde du travail est en train de changer drastiquement. L'IA est en train d'accélérer ça sur les enjeux de compétitivité, de valorisation des compétences, etc. etc. En train d'accélérer ce phénomène-là, mais la question, elle est quand même là d'un point de vue sociétal, et on devrait en parler même s'il n'y avait pas l'IA. Donc quelque part, c'est même presque intéressant que l'IA soit là pour ça, parce qu'elle vient mettre le doigt sur des choses qui créent du débat public, quoi.
Azerty.
En écoutant Raphaël, j'ai réalisé qu'en effet, on parle autant d'IA en ces moments parce que c'est les nouveaux outils, les nouveaux gadgets, comme on disait, et rentrent dans notre quotidien, mais aussi pour une autre raison. En étant les produits ultimes de ce que certains appellent le technocapitalisme, l'IA cristallise beaucoup de sujets des fonds du numérique et de notre société. Et du coup, c'est là tout l'intérêt, pas que dans l'outil en soi. Vu que le tableau de l'IA est un peu noir, on pourrait se faire tenter par une idée, jeter cette technologie par la fenêtre. Et avant de faire cela, selon nous, il faut évaluer s'il n'y a pas aussi des usages bénéfiques. Bah, voyons l'avis de Raphaël, s'il y a quelque chose de bon qu'on peut en tirer de l'IA.
Je pense qu'il y a une bataille des imaginaires aujourd'hui. Je pense que, et plus largement que l'IA, il y a une bataille des imaginaires sur la transition socio-écologique, la transition écologique en particulier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi, alors qu'on a tous les rapports des GIEC, toutes les informations, etc., on n'arrive pas à transitionner sur ce sujet de l'écologie? C'est parce qu'en termes de récit, on n'arrive pas à se projeter et à voir quelque chose qui nous fasse envie et un futur souhaitable dans lequel on a envie d'aller. Et en général, les futurs qu'on nous propose sur ces sujets de la transition écologique, c'est de la dystopie, c'est de l'effondrement, etc. Et on a du mal à se projeter vers un futur souhaitable. Or, avoir un récit qui nous motive, c'est le fondement de la mise en mouvement. Pour moi, je pense que vraiment sur ces sujets des imaginaires, on a un enjeu à donner à voir un futur dans lequel on a envie d'aller, changer les imaginaires. Et donc du coup, je pense que l'IA, il y a un boulevard pour ça, parce que l'IA, et en particulier aujourd'hui l'IA générative, a cette capacité de générer du contenu, des images, des vidéos, du texte, et donc par définition, des récits. Et on peut donc avoir un super outil pour générer de nouveaux récits qui nous donnent des futurs dans lesquels on a envie de se mettre en mouvement et dans lesquels on a envie d'aller. Et du coup, utiliser l'IA pour créer quelque chose rapidement, facilement, qui soit quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui nous donne envie, on dit « ok, là on veut aller là », je pense que c'est un sacré levier pour ça.
Ces termes de « bataille de l'imaginaire » m'ont fait immédiatement penser à un artiste très particulier, Sam Boy, vrai nom, qui peut-être vous connaissez grâce à un média qu'il a cofondé, Histoire Crépue. La spécialité de Sam Boy, utiliser l'IA générative pour combler les vides des images qui n'ont jamais été créées ou transmises, comme celles des peuples colonisés. Créer une nouvelle iconographie et une mémoire décoloniale grâce à l'IA. Bon, nous vous recommandons de jeter un coup d'œil à son Instagram, ça mérite vraiment.
Dans Azerty, on a reçu des personnes qui critiquent, conçoivent des systèmes d'IA ou les interrogent. Mais une chose est sûre, c'est qu'au regard de l'évolution du monde, on n'a pas fini d'entendre parler de cette technologie, ni de voir les petits éclats de magie mystique sur nos interfaces. Dans ce monde où usage technologique rime très souvent avec exploitation des individus, de la planète, comment faire avec? Est-ce qu'il existe une sorte de consommation éthique de l'IA pour nous, utilisateurs du quotidien?
Sur l'IA, ça dépend à quel point tu te sens impacté par ces sujets-là et tu as envie d'être acteur ou actrice de ces sujets-là. Et c'est pas moi, ni même le Nika, qui vont te dire où mettre le curseur. Par contre, des bonnes pratiques et avoir un peu des réflexes en tant que citoyen et citoyenne, c'est toujours une bonne chose. Et moi, ce que j'aime bien avoir dans un coin de la tête, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur un peu l'IA mystique et le côté aussi où on voit pas derrière le capot, c'est de se dire simplement que c'est pas une solution qui est gadget. C'est une solution qui a un impact, et donc du coup, si je m'en sers, c'est selon mon critère à moi, parce que c'est important, parce que c'est utile, etc. Et donc d'enlever de sa pratique le côté vraiment gratuit, de je l'utilise parce que c'est rigolo, et voilà, et d'avoir un peu, de muscler ce réflexe-là, de poser un peu la question sur son usage, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est utile, ça sert à quelque chose, ou je suis juste en train de bidouiller, de m'amuser, et aujourd'hui, je pense qu'il faut que collectivement, on arrive à avoir ce regard critique-là et de se dire, bon, peut-être, au vu de ce que ça coûte dans notre monde, on ne devrait peut-être pas l'utiliser pour faire des blagues à longueur de journée. Voilà. Après, effectivement, l'idée, c'est pas de faire du moralisme et de dire que chacun qu'est-ce qu'il devrait faire ou pas faire. Mais d'avoir ce réflexe-là et après d'être chacun juge de ça et de décider, je pense que c'est important.
Merci à Raphaël Torres du LICA pour avoir accepté de répondre à nos questions. Pour en savoir plus sur ce que propose le LICA et le Tier Lab des Transitions, on vous invite à aller découvrir leur site lica-europe.org et leur Instagram @lica.europe. Dans cette émission, on a aussi cité quelques sources que vous retrouverez en description du podcast. Comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, que vous nous écoutiez en podcast ou sur Radio Grenouille, on vous invite à découvrir les précédentes émissions disponibles dans vos applications de podcast. N'hésitez pas non plus à commenter et à nous laisser des étoiles. À bientôt.
Azerty.